Merci Jean-Claude. C'est avec gratitude et humilité que je vais tenter de réagir à ces différentes interventions. Alors je précise, hein, gratitude, je mentionnerai d'abord pour la gestation de la brebis perdue, et beaucoup de joie. Moi j'étais dans la salle et j'ai vu que ça suscitait de la joie. Et gratitude pour tout ce que j'ai entendu depuis hier soir. Humilité, alors là je pourrais être très longue, mais parce que ça bouscule quand même beaucoup mes savoirs. Hein, même Hannah Arendt, tout ça, ça se bouscule pas mal. Il va falloir décanter, mais bon. Alors ce qui me vient tout d'abord, je réagis, hein, et j'espère que vous vous y retrouverez, mais c'est aussi un peu personnel. Ce qui me vient, c'est la radicalité donc, de la pensée du père Brzezinski, et j'accolerai un adjectif, radicalité subversive. Radicalité de son refus de la misère, radicalité des conséquences que cela entraîne, parce que mettre la misère au centre, ça provoque des conséquences sociales, politiques, théologiques, ecclésiologiques et bien d'autres, sûrement. L'autre tonalité dominante qui m'est venue, pas immédiatement, hein, je la force un peu pour tout dire, c'est l'espérance. L'espérance que suscite cet engagement auprès des plus pauvres, et j'ajouterai là aussi un adjectif, espérance coûteuse. Il faut être honnête quand même. Parce que le combat est redoutable et à première vue au-dessus des forces humaines, en tout cas au-dessus de mes forces humaines. Je retiendrai 5 points particuliers avant de revenir quand même à cette espérance. Alors le premier point, je crois qu'il est assez évident pour nous tous, c'est le passage de l'option préférentielle pour les pauvres à la priorité aux plus pauvres. Et ce qu'il m'est apparu, c'est que c'était pas du tout une opposition ni même une critique de la part du père Brzezinski de la théologie de la libération. Et c'est pour ça que je commencerai par souligner des constantes. Je mettrai en évidence 3 constantes. La première, c'est la personne du peu pauvre, de manière presque objective. La deuxième, c'est son expérience vécue. Et la troisième, c'est le projet de libération. Je pense que dans les deux cas, que ce soit la théologie de la libération ou la pensée du père Brzezinski, ces 3 constantes sont les mêmes. Alors, la personne du plus pauvre, les termes sont très nombreux, je ne les ai pas tous relevés, hein, mais pour décrire le pauvre. Cette personne, c'est d'abord une non-personne. Alors, c'est un peu paradoxal, mais je crois que ça en dit long. Elle est socialement invisible, laissée pour compte, aussi bien économiquement, socialement, mais aussi culturellement. C'est le plus oublié, le plus exclu. Et je cite le père Joseph qui disait aussi « c'est un étranger social ». Un étranger culturel et même un étranger religieux. Je pense que par rapport à la dernière intervention, il me semble que ça résonne très fort, cet étranger religieux. La deuxième constante, donc, c'est l'expérience vécue, peut-être de manière plus subjective. Alors là aussi, beaucoup de termes, hein, pour décrire cette expérience vécue. Mépris, l'humiliation. Il y a un mot que j'aime bien, qui n'est peut-être pas très joli, mais qu'on utilise à JRS, c'est le mot « invisibilisation » de l'existence. Ils sont rendus invisibles. Et puis le mot le plus fort, enfin que je retiendrai, le plus lourd peut-être, c'est le mot de « honte ». Et même, c'est l'expression du père Brzezinski, « les chemins » au pluriel de la honte, où, dit-il, « se lit » au pluriel, « manque d'argent, honte et violence ». Alors j'ajouterais juste, c'est ce que disait Christophe Pichon, la honte est au croisement du psychique et du social, donc vraiment encore une fois un cumul de précarité, enfin des choses très lourdes. Et cette honte doit être au cœur du projet de libération des plus pauvres. Alors ça c'est la troisième constante, un projet, je dirais même un combat, je crois que c'est le terme très souvent utilisé par le père Brzezinski, le combat de libération, avec cet antonyme, hein, qu'on a soulevé de la honte, c'est-à-dire l'honneur, dignité et honneur retrouvés, qui passe par l'écoute, la relation, la restauration de la relation. J'ai beaucoup aimé, il y a un moment donné, on a parlé de face à face, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le regard, c'était beaucoup souligné hier soir. Et puis quand même, un infléchissement majeur, j'amorce un peu quand même cette différence, hein, parce qu'il y a quand même aussi des différences avec la théologie de libération, et un infléchissement que je vois poindre et qui me paraît très fort, c'est le passage du faire pour à l'être avec. Et c'est Algérès, on essaye vraiment de le mettre au cœur de notre action, être avec, et ça emporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences. Beaucoup de conversions, j'allais dire, peut-être de part et d'autre. Alors au cœur de ce projet de libération figurent la réciprocité, le respect, le croisement et le partage des savoirs, la reconnaissance de quelque chose que nous essayons de mettre en œuvre, c'est pas très facile à expliciter, c'est le droit culturel pour tous, et notamment ça passe par le fait de reconnaître qu'il y a une culture et qu'il y a aussi un savoir culturel qui doit être écouté et reconnu. Alors j'en viens à mon deuxième point. C'est la question fameuse, hein, je ne prétends pas la résoudre parce que je trouve qu'elle est extrêmement difficile et je vais essayer de restituer ce que j'ai entendu, mais qui est le plus pauvre? Et puis je vais réagir à cela parce que c'est un gros débat que ça suscite en moi. Et là encore, donc, une question redoutable qui bouscule beaucoup d'évidence. Je me permets de citer mon voisin, Jean-Claude, je le cite, « À aucun moment je ne peux le désigner ». Dire le plus pauvre, c'est plutôt désigner une dynamique, une quête, une tension. Être sans cesse à la recherche de plus pauvres encore que ceux que je rencontre. Car, ajoute-t-il, nous avons toujours tendance à nous arrêter auprès d'un pauvre donné qui nous permet de nous installer dans le monde. Alors, je pense que dans tout ça, il doit y avoir des paroles du Père Joseph.
La dernière ligne.
La dernière ligne, voilà. Alors, je voudrais insister sur cette différence majeure qui est évidemment centrale entre misère et pauvreté, ce que met en évidence le Père Joseph. Et c'est là qu'intervient cette radicalité, cette radicalisation et cette gradation, parce que finalement, il y a quand même une graduation entre pauvreté et le pire du pire, qui est la misère. Je cite le Père Joseph, « La misère, ce n'est pas être inférieur faute de disposer de pouvoir, c'est la mutilation de votre qualité même d'être humain. » Et il ajoute, « Le sous-prolétaire est considéré comme un sous-humain. » Et puis cette phrase qui a été dite aussi du Père Brzezinski, « Tout manque, toute souffrance n'est pas misère. Amalgamer misère et pauvreté, c'est renoncer à penser la misère et en refouler le scandale. » Alors, c'est là que je pense qu'il y a quelque chose de subversif, mais il y a combat en moi, donc je vous livre un peu l'état de ce combat. Cette interrogation sur le plus pauvre me paraît à la fois difficile et dérangeante, parce que comment s'orienter au milieu de tant d'appels criants? Comment choisir et faut-il choisir entre misère physique ou psychique, entre misère économique ou sociale et misère culturelle, entre misère proche et misères lointaines? Il me semble que cette quête du plus pauvre peut engendrer des crispations, des surenchères, voire des effets pervers, si on ne garde pas en mémoire la parabole du bon samaritain et l'invitation finale de Jésus « Va et toi aussi fais de même » en Luc 10, 25-37. Mais encore une fois, je ne voudrais surtout pas prétendre, je dis juste comment je ressens la chose. Peut-être aussi à partir du terrain de JRS, le prochain, en tout cas dans cet évangile, on ne le choisit pas vraiment. Il croise la misère en chemin, il choisit de se faire proche, de s'engager dans la durée, sans prétendre tout faire lui-même. Mais après tout, peut-être que le Père Joseph ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme, par rapport à la misère, il faut à la fois la proximité et la distance. Je crois qu'il met à plusieurs reprises le danger de trop s'approcher ou de trop rester auprès du plus pauvre qu'on accompagne. Alors ça, c'est le débat, j'allais dire instinctif, peut-être que c'est ma déformation qu'il faut que je corrige de philosophe, toujours dans un aspect insatisfait. Et après tout, je reste convaincue qu'il faut préserver ce caractère subversif de cette logique, je crois qu'Étienne l'appelait logique illisible ou corrosive, de cette quête incessante du plus pauvre comme nécessaire et salutaire, parce qu'elle engendre quelque chose comme une inquiétude. Je n'aime pas beaucoup l'inquiétude et j'ai bien aimé que tout à l'heure on a parlé de tranquillité finalement. Il y a quelque chose de face à l'Église qui n'est pas toujours au rendez-vous, ben, finalement, le père Wazinski était tranquille. Moi, ça me plaît assez. Mais peut-être qu'il y a quelque chose des deux à tenir pour dire cette fécondité dérangeante de cette quête du plus pauvre. Et ce qui m'est venu, c'est deux expressions, deux termes. Alors l'un a été employé par Laure hier, mais c'est le terme intranquillité, l'intranquillité, qui est le titre du dernier ouvrage de Marion Muller-Collard, une théologienne protestante. Très beau titre, parce qu'elle montre que même en tant que chrétien, on peut être tout à fait intranquille et que ça ne gomme pas cela. Et puis la deuxième, qui est une expression que j'aime beaucoup et qui est dans tout autre contexte, de Monique Castillo, et qu'elle appelle le courage de l'incertitude. Et finalement, ces deux expressions, intranquillité et courage de l'incertitude, disent, me semble-t-il, quelque chose de la justesse de cette quête du toujours plus pauvre. En résonance avec le texte de Matthieu 25, 35, et cette surprise, cet étonnement que partagent les justes qui accueillent et qui finalement ne savent pas qu'ils ont accueilli le Christ, et les autres qui n'ont pas remarqué non plus qu'ils n'avaient pas accueilli. Alors, pour illustrer ça, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer un visage, de vous donner un visage, de donner un visage à cette belle inquiétude, tranquille inquiétude, je pourrais presque dire, en évoquant la figure de Jean 23, alors qu'il était encore nonce en Turquie, donc c'était à l'époque Angelo Giuseppe Roncalli. Et voilà ce qu'il dit, il s'adresse des reproches à lui-même, alors qu'on sait tout à fait combien il a aidé des enfants juifs, et voilà ce qu'il dit à propos de l'aide qu'il apporte aux enfants juifs. Je le cite. « N'aurais-je pas pu, écrit-il, n'aurais-je pas dû en faire plus, faire un effort plus décidé et aller contre les inclinations de ma nature ? La recherche du calme et de la paix, que je pensais être plus en harmonie avec l'esprit du Seigneur, n'a-t-elle pas masqué peut-être un certain manque de volonté pour prendre l'épée ? » Voilà, alors troisième point, l'attention au contexte. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup retenu, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas, nous sommes en 2017, est-ce qu'il ne faut pas être attentif à ce nouveau contexte ? Alors, j'essaye d'énumérer les trois contextes, enfin les deux contextes que nous avons vus, hein, le contexte d'Amérique latine, qui a été qualifié par l'ordre de contexte d'injustice et d'oppression, le contexte européen, celui du père Wazinski, contexte d'exclusion sociale et d'indifférence en Europe, donc, et aujourd'hui, et je pense que ce n'est plus tout à fait ça. Moi, je serais tentée de dire, à partir de ce que je vois, notamment des migrants, que c'est un contexte d'exploitation et de grande violence. Je serais tentée de dire que l'exclusion sociale et l'indifférence, c'est presque trop soft, et que, à mon avis, il y a quelque chose de plus dramatique encore, encore que c'est sans doute tout à fait tragique, et je n'en mesure peut-être pas encore pleinement la pensée. Et je voudrais simplement donner trois brèves remarques de ce que ce contexte évoque. D'abord, je crois qu'il y a une concurrence et qu'on ne peut pas la passer. Enfin, je crois qu'il faut vraiment restituer cette violence et restituer le conflit. Enfin, pour moi, ce qui a été dit sur le conflit est peut-être l'importance à propos de la non-violence, l'importance de donner sa place au conflit. Je crois que c'est absolument sain et vital. Je crois qu'il y a une vraie concurrence. Laquelle il faudrait pouvoir mettre des mots, mais une concurrence entre différents mondes de pauvreté. Et je crois qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça en disant que la quête du plus pauvre va créer l'harmonie, parce que je n'en suis pas certaine et je ne crois pas que ça soit possible tout à fait. Concurrence entre les pauvres nationaux et les pauvres étrangers, entre les migrants économiques et les réfugiés politiques, je crois que tout ça, c'est des mondes en grande tension, en grande difficulté, et que beaucoup de choses sont faites d'ailleurs pour les dresser contre les autres, et que ce n'est pas simple faire un choix. Deuxième petite remarque, qui est le plus pauvre aujourd'hui ? Dans ce nouveau contexte, me semble-t-il, qui n'est pas tout à fait celui du père Wazinski, celui du contexte des crises, de la crise migratoire, en tout cas, qui est devant nous. Et il me semble, la réponse que j'avance, mais tout à fait humblement et timidement, que le plus pauvre aujourd'hui, c'est le plus exposé à la violence, et je dirais le plus vulnérable face aux persécutions, à l'exploitation, à l'esclavage, à la traite, Et ceux qui me viennent aujourd'hui, c'est principalement la femme et les mineurs étrangers non accompagnés, qui sont souvent déminorisés, qui ne sont plus ni mineurs ni majeurs. Enfin bon, je pense que le plus vulnérable, en tout cas, qui est sûrement le plus pauvre, enfin c'est pas le seul, met l'accent sur l'urgence de la protection de personnes victimes de violences, de blessures psychotraumatiques, et que c'est extrêmement complexe à accompagner. Quatrième point d'attention, la dimension spirituelle et religieuse, parce que ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas, la priorité donnée aux plus pauvres n'est pas seulement une question de justice, de réconciliation, de solidarité, encore que c'est tellement important. Ce qui a été dit et qui me frappe, c'est qu'il en va de l'identité même de Dieu. Je cite Guénola, « Les plus pauvres sont les garants de cette identité de Dieu. Ils aident l'humanité à ne pas se tromper sur Dieu. » Et puis, ce que disait Alain, en citant l'encyclique Nouveau Millénaire, « La personne du pauvre est une présence spéciale du Fils de Dieu qui impose à l'Église une option préférentielle pour les pauvres. » Et là, bien sûr, je ne peux que penser à l'appel récent du pape au Bangladesh le 1er décembre, qui disait ceci, « La présence de Dieu aujourd'hui s'appelle aussi Rohingya. » Deuxième point, donc toujours dans cette dimension spirituelle, le salut universel pour tous. Ça, je trouve que c'est d'une puissance rare. Le fait qu'il n'y ait pas d'exclusive, pas de discrimination, ni à l'égard des riches, ni à l'égard des moins pauvres, agriculteurs qui sont en détresse et qui souffrent, classe moyenne. Et là, je voudrais citer Étienne qui disait « Le père Joseph a pris soin de ne jamais céder à la facilité d'un mépris des riches. » Pas d'exclusive, mais le salut passe par les pauvres. Le Dieu des pauvres est un Dieu pour tout le monde, pour tous les hommes, mais qui passe donc par les plus pauvres. C'est un chemin de salut qui passe par les pauvres parce qu'en eux, l'essentiel n'est pas entamé. Troisième et dernier point de ce quatrième sur la dimension spirituelle, le discernement permanent. Je suis un peu obsédée de discernement, mais enfin après 11 ans dans cette maison, je crois que c'est normal. Discernement permanent nécessaire pour éviter un risque évident, celui de l'indifférence, cette mondialisation de l'indifférence, mais aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le risque du burn-out, je crois, qui guette les chrétiens, qui guette beaucoup de bénévoles sur le terrain. Et puis, un autre troisième risque qui est pointé par le père Joseph, je crois, dans « Les pauvres sont l'Église », qui est le risque de l'accoutumance. Et refuser l'accoutumance sous peine de ne plus, je le cite, « s'apercevoir que la misère use l'homme ». Pour illustrer ce point important, me semble-t-il, je voudrais juste rappeler le récit de l'échec mentionné par Frédéric Marie à propos d'une famille, et je le cite, « Malgré nos efforts, rien n'était possible ». Je ne suis pas sûre qu'il l'ait dit aujourd'hui d'ailleurs. Non. Bon, voilà, c'est pas grave. Vous en apprendrez un peu plus. Donc, malgré nos efforts, rien n'était possible. Tout ce que nous envisagions mettait la famille en porte-à-faux, en situation d'être encore plus humiliée, encore plus exclue. La famille ne pouvait tenir dans le conflit et était de toute façon broyée par ce qui lui tombait dessus. Je souligne juste ce point parce que je pense que dans l'action que nous entreprenons, on peut aussi avoir cet effet pervers de ne pas susciter le meilleur. Alors je termine par la dimension à laquelle évidemment je suis le plus sensible, des formations professionnelles, c'est la dimension politique. Dimension qui me paraît importante. Donner une place aux plus pauvres, lui restituer sa dignité et son humanité passe, me semble-t-il, par l'accès à la citoyenneté. Je crois qu'il faut vraiment aller jusque-là et ne rien lâcher jusqu'à cette mise en capacité politique, on utilise un mot anglais, bon, je n'aime pas beaucoup ça, mais je crois qu'on n'a pas l'équivalent français, c'est le mot « empowerment », c'est-à-dire le fait de renforcer la participation effective, c'est-à-dire de croire que oui, c'est un droit, et ce n'est pas l'ultime et un négligeable cadeau. C'est cette honorabilité collective dont on a parlé, dont les pauvres ont le plus besoin, et qui compte le plus pour eux être quelqu'un ensemble. Et je crois qu'hier, le « être ensemble » dans cette communauté-là, c'était vraiment magnifique de le souligner. Alors, Bon, peut-être que cette non-violence comme conscience commune est un chemin d'accès. Moi, j'aimerais en savoir plus là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de faire violence aux riches. Et pourtant, il faut tenir les deux, hein, cette non-violence active et qui est quand même assez pressante et urgente. Elle suppose d'obliger, c'est les termes du père Brzezinski, hein, obliger la société à prendre ses responsabilités. C'est quand même très fort hein, que ce mot « obliger », comment on oblige sans faire violence? Je ne sais pas très bien comment ça marche, mais bon. La dénonciation, je le cite encore, « la dénonciation doit s'incarner, témoigner que la destruction de la misère est possible, dénoncer l'injustice en restituant la justice, en prouvant qu'elle est possible. » Chemin du possible, redoutable. Donc, renversement des catégories, ça a été dit, mais pas inversion. Les pauvres sont comblés de biens, mais Dieu ne les met pas sur le trône dont il fait tomber les puissants. Alors, je conclue, je reviens à l'espérance. Je me force un peu, hein, je ne vous cache pas. Espérance coûteuse que j'évoquais en introduction, qui passe par l'échec, par l'impuissance, en un mot par la croix. La croix que nous rappelait Étienne, qui peut être entrevue comme un lieu de solidarité, comme un lieu de réconciliation. Car, nous disait-il, sur la croix, c'est la violence elle-même qui est défaite, et je cite Éphésiens 2, par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Et si je devais aller un peu plus loin, l'espérance, me semblait-il, c'est cet ancrage en l'essentiel humain, cet homme à l'état pur, qui m'obsède un peu, mais que je crois maintenant comprendre un peu mieux. Alors, je vous livre le petit résultat de ce que j'ai compris. En tout cas, on comprend ce que ça n'est pas. Ce que n'est pas l'état pur, c'est un homme enfermé dans le savoir, le pouvoir et la richesse, c'est-à-dire cette trilogie de l'encombrement qui sans doute nous guette tous. Je reprends les termes de Guénola, hein, l'argent, la force politique et l'autosuffisance. Et à cette trilogie de l'encombrement, moi j'aime assez cette trilogie du dépouillement qui était citée hier, à l'argent substituer la compassion, à la force politique l'amour, et à l'autosuffisance, la foi comme dépendance, c'est-à-dire c'était ce qui est pointé hier, hein, c'est cette trilogie amour, foi et compassion, évoquée hier donc par Laurence, Claudine et Alain. Et j'ajouterai que les plus pauvres nous ramènent sans cesse à l'essentiel, dont nous perdons sans cesse les clés, que cette espérance enfin réclame la justice et la consolation ici et maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, pour terminer, ce qui me vient, c'est cette source juive d'une autre paire dont on revisite un peu certains points. C'est le dernier point. En ultime recours, ce qui est dit, c'est « Seigneur, vois notre misère et mène notre combat ». Voilà, merci.
Merci Véronique pour ce contrepoint, pour ces questions, pour ces interrogations, pour ces doutes, pour cette espérance surtout, même si c'est une espérance coûteuse, elle est une espérance coûteuse pour chacun de ceux qui sont dans cette salle, j'imagine. Elle est une espérance coûteuse aussi pour les plus pauvres eux-mêmes, qui, voilà,